Dieu de toi, Seigneur. Béni sois-tu. Toi, le Dieu souverain, notre Père que nous invoquons, que ton nom soit béni encore en ces lieux pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir instruire, enseigner, édifier tes enfants. Dirige ces moments encore par ton esprit. Et nous nous disposons, Seigneur, à pouvoir recevoir ta parole qui est une semence de vie ce matin pour les cœurs disposés. Je prie que personne ne soit encore privé de ta grâce que tu manifestes encore à travers l'enseignement de ta parole. Prends toute la place et que Jésus-Christ seul soit honoré et glorifié dans chacune de nos vies. Et c'est dans son nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Que ta paix, que ta grâce soit sur chacun de vous. Amen.
Amen.
Alors, sans plus tarder, on va continuer toujours dans la parole de Dieu sur comprendre l'importance de rester dans les limites de Dieu, parce qu'il y a des choses qui nous guettent, il y a des choses qui nous empêchent, il y a des choses qui nous éloignent. Il y a des choses qui vont faire en sorte que nous puissions sortir des limites de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12. Alors, il est écrit, ici nous allons découvrir encore un élément important qui fera que, en se comportant ainsi, nous allons sortir des limites. Et quand on sort des limites, Dieu vous l'avait dit, Dieu n'est plus avec nous. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. La Bible précise qu'ils étaient quand même sacrificateurs. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondit, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et c'est là qu'on s'arrête. Ce qui nous interpelle, c'est le dernier verset qui dit « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Lorsque nous méprisons les offrandes, le culte, le culte de Dieu, nous allons avoir des problèmes. Parce que Dieu avait réglementé son culte, comment les sacrifices devaient être offerts. Regardez ces sacrificateurs-là, pourtant ils étaient sacrificateurs, hein. Mais ils n'ont pas pris au sérieux le culte. Et le fait de mépriser le culte de Dieu a fait en sorte que le jugement de Dieu est tombé sur la famille d'Élie, et puis ils sont tous morts. Ils n'ont pas pris au sérieux le culte. Et ça me fait penser à ce qu'on a vu le dimanche passé aux fils d'Aaron, qui ont apporté aussi un feu étranger. Ils se sont dit, bon, c'est plus important, le feu n'a qu'à brûler, n'importe quel feu, Dieu sera content. Et ils se sont dit, mais nous, on est sacrificateurs, on a tout droit. On peut faire ce qu'on veut. Non. Dieu avait déjà parlé à Moïse comment devait se faire le culte. Et comment les offrandes et les sacrifices devaient être apportés. Il y avait la part des sacrificateurs, et puis il y avait ce qui devait être brûlé sur l'autel. Mais tout devait se passer dans un ordre que Dieu avait déjà prédéfini. Mais malheureusement, les fils d'Élie sont venus troubler et bouleverser l'ordre de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux le culte. Et lorsque nous ne prenons pas au sérieux le culte de Dieu, on va avoir des problèmes. J'ai parlé d'offrande. Je ne parle pas ici d'abord d'argent. Parce que la première offrande, c'est d'abord nous-mêmes. Amen. La Bible dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Et la Bible précise, c'est ce qui sera le culte véritable, selon Dieu. Le culte véritable, selon Dieu, c'est d'abord nous-mêmes. En tant qu'offrande, comment on vient devant le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui gravite autour. Ça, c'est après. Mais c'est d'abord nous-mêmes, en tant qu'offrande vivante. Est-ce qu'on se prend au sérieux nous-mêmes? Est-ce qu'on se dit, oh, ce sont des formalités? Oh, c'est par habitude. C'est ça le problème. Nous devons savoir ce que l'on fait avec Dieu et pour Dieu. Si on vient parce que c'est un dimanche de plus, ça, c'est qu'on n'a rien compris. Si on vient parce qu'il faut se retrouver ensemble à 7 rue Rémy-Cosson, c'est qu'on n'a rien compris. Nous venons, c'est le rassemblement des rachetés, des hommes et des femmes qui ont compris qui est Dieu et qui viennent ensemble témoigner leur gratitude à l'égard de Dieu et qui ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font, ils le font avec leur cœur. Lorsque vous quittez vos maisons et que vous apprêtez vos enfants, vous venez dans la communion fraternelle, c'est avec joie. C'est pas parce que tous les dimanches on se retrouve, parce que je vous assure, si un jour vous vous levez et que vous êtes dans ce formalisme, restez chez vous. Parce que Dieu n'a pas besoin des figurants. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse juste faire de la place. C'est pas ce dont il a besoin. Il cherche des hommes et des femmes qui viennent à lui de tout leur cœur, qui ont compris que ce sont eux d'abord l'offrande. Comment nous nous préparons? Sinon, après, on tombe dans le religieux. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas ce dont il a besoin. Quand nous nous approchons de Dieu, comment on s'approche? Ces fils qui étaient sacrificateurs. Parce que n'oubliez pas, je fais une transposition entre ce qui était fait hier et ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'eux, ils étaient sacrificateurs. Aujourd'hui aussi, nous le sommes en Christ. Parce que la Bible déclare qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Donc ça veut donc dire nous également, en tant que sacrificateurs pour Dieu et pour Christ, nous pouvons nous comporter comme cela. Ils étaient aussi sacrificateurs, mais ils n'ont pas pris au sérieux le culte. Ils n'ont pas pris au sérieux le sacerdoce. Ils n'ont pas pris au sérieux la fonction qu'ils ont devant le Seigneur. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous devons prendre au sérieux réellement ce que nous sommes devenus en Jésus. Si on ne se prend pas au sérieux, ben, tout ce que nous allons faire, c'est en rapport avec ce que nous on a compris. On donne que ce qu'on a. On donne que ce que l'on a et surtout ce que l'on a compris. Hein. Donc, frères et sœurs, chaque fois que tu méprises le culte, et c'est pourquoi j'ai voulu le repréciser, c'est d'abord vous. Et je l'avais dit une fois dans une église, vous savez, la réussite du culte ne dépend pas de la chanson et de la prédication, ça dépend de toi-même. Parce que dans nos assemblées, on a toujours cru Et pendant des années, on a toujours dit que quand le culte il réussissait, c'était parce que les chants ils ont bien chanté, ben le message il était bon. Ce n'est pas ça qui fait la réussite du culte. Parce que le culte, c'est nous-mêmes. Nous sommes des offrandes devant Dieu. Donc si tu sors de là, tu dis que tu as passé un mauvais culte, c'est que c'est toi qui avais le problème. Parce qu'on se retrouve ensemble, mais on s'approche du trône de la grâce. C'est individuel. Amen. Donc quand on dit que j'ai passé un mauvais culte, je dis non, c'est un abus de langage. Normalement, le culte, c'est chacun de nous. Même si le voisin, il n'a pas bien prié, ce n'est pas ton problème. Et nous avons mis le fardeau sur les chantres. On a mis les fardeaux sur les intercesseurs de nos églises. On a dit que c'est à cause d'eux. C'est par eux que le culte doit rester parce qu'on n'a pas compris ce que c'est le culte. On a cru que le culte était toute cette atmosphère-là parce qu'on a crié. C'est pas ça. C'est d'abord toi-même. Comment tu t'es préparé avant et pendant que tu es dans le rassemblement des frères et après. Et quand il y en a qui disent le culte était mauvais, surtout en Afrique, j'ai beaucoup entendu cela. Non, les chants, ils ont mal chanté. Ah, le prédicateur, le message, c'était pas ça, donc le culte n'était pas bon. Non, le culte ne dépend pas de ça. Le Seigneur lui-même, il donne des réponses. Il dit le véritable culte, c'est nous-mêmes qui nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. On dit un sacrifice vivant. Donc le premier sacrifice que Dieu attend, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a montré l'exemple lui-même. Dieu est venu se donner comme une offrande par Jésus-Christ. Donc il est venu dans la chair humaine comme une offrande. Il s'est donné. Il n'a pas tué un animal, il n'a pas porté un animal. Lui-même, il est venu comme une offrande. De la même manière, nous devons être comme Christ, cette offrande pour Dieu.
Amen.
C'est nous-mêmes d'abord. Donc si tu as mal préparé ton conditionnement, si tu n'as pas compris le bien fondé de la communion fraternelle, ne viens pas dire après que le culte n'était pas bon parce qu'on n'a pas bien senti, il n'y a pas la guitare ou bien il n'y a pas le piano. Le culte ne dépend pas de ça. Ça dépend de comment ton cœur est préparé, comment tu viens pour témoigner ta gratitude à Dieu. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous des instruments. Avant même David, les gens, comment ils faisaient? Il y en a qui faisaient leur culte, il n'y avait pas la louange, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais ils glorifient le Seigneur. Parce que la louange, c'est d'abord des paroles. Ce n'est pas de la musique, c'est d'abord des paroles. Qui peuvent être accompagnés par la musique. Mais c'est d'abord ce que tu dis, ce que tu as compris, ce que tu as reconnu par rapport à Dieu. Ce n'est pas la musique. Donc, mépriser le culte, donc se mépriser soi-même. Vous allez sortir des limites parce que Dieu dit que vous devez être une offrande vivante. Et cette offrande, si nous lisons bien dans Romains, on nous dit que cette offrande n'est pas seulement une simple offrande. À Romains chapitre 12, on donne une précision sur cette offrande. L'offrande en question, elle doit être comment? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, Romains chapitre 12, verset 1er, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, virgule, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le véritable culte, c'est ça d'abord. C'est l'apôtre Paul qui a été chargé, mandaté par Dieu d'instruire l'église. Et Paul nous dit que le véritable culte, c'est ça. Et quand on a compris que le véritable culte, c'est ça, on n'attend pas le dimanche. Le dimanche, ce n'est pas le jour du culte. Le culte, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Le dimanche, parce qu'avec les sociétés actuelles, on se retrouve le dimanche, parce qu'avec le travail de la semaine, on se retrouve dans la communion des saints, des frères et des sœurs, parce que c'est important, il a dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. On est dans la communion, c'est vrai, mais le culte, ce n'est pas dimanche. Le culte, c'est tous les jours. C'est une conception qu'il faut bien intégrer. Parce que c'est un héritage de l'église historique, sans que je cite le nom, qui a fait que le dimanche soit le jour du culte. Le jour du culte, ce n'est pas le dimanche. Le culte, selon Dieu, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours que nous venons devant le Seigneur. C'est tous les jours que nous devons avoir une vie sainte. C'est tous les jours que nous devons être agréables à Dieu. Ce n'est pas que le dimanche. Vous vous rendez compte, c'était seulement le dimanche, dans les autres jours là. Une vie sainte et agréable pour Dieu, c'est tous les jours.
Oui.
Donc, en conclusion, le culte, c'est tous les jours.
Tous les jours, oui.
Donc, c'est important de le savoir, frère. Ne jouez pas avec vous-même. Quelquefois, on se dissocie alors que c'est nous-mêmes. Ne jouons pas avec nous-mêmes. Hein. Parce que là, je veux encore mettre encore le clou sur ce que je suis en train de dire. Parce que le temple, c'est qui? Le culte se passait où? Le temple. Et le temple, selon Christ, c'est qui? C'est nous. Donc, vous comprenez que c'est nous. C'est nous qui sommes concernés. Ce n'est pas l'équipe d'adoration. Eux, ils ont une grâce certainement de nous accompagner. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui doivent vous amener devant le trône de Dieu. C'est Amen. Chacun de nous. Amen. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et après, on vit des frustrations. La qualité d'un bon culte, ce n'est pas dans la façon dont le message a été prêché, je le répète, et comment on a chanté ensemble. Dieu sonde les cœurs et les reins. Parce qu'on peut bien chanter ensemble et vivre ses émotions, et puis Dieu n'est pas dedans. Hein.
C'est vrai.
Parce qu'il y a quand même des paroles dans la Bible où il le dit, hein, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc ce qui rassure Dieu, s'il faut le dire ainsi, ce n'est pas parce qu'il y a eu toute cette organisation humaine et qu'il sera là. Il peut être là comme il peut ne pas attester ce qui a été fait. Parce que le problème de Dieu, c'est qu'il cherche le cœur. Quand l'Esprit de Dieu se meut, il cherche à sonder les cœurs. Parce que nous, il a dit là où deux ou trois se rassemblent en son nom, il est présent. Donc l'Esprit de Dieu est bien là. Mais quand l'Esprit de Dieu se meut dans l'assemblée, vous pensez qu'il cherche quoi? Il doit chercher les cœurs qui sont disposés pour Dieu. Donc c'est s'il faut prendre cette image, alors qu'il est en train de faire un balayage, n'est-ce pas? Ça c'est juste une image, il balaye nos cœurs. Maintenant si dans nos cœurs là, on n'est pas vrai avec Dieu, on sait que Dieu sera glorifié. C'est cette image qu'il faut retenir. Nous l'invitons non pas parce que nous disons « viens », mais parce que nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, il est présent. Mais quand il est présent, il doit balayer, il doit faire son balayage. Il doit sonder. J'aurais beau bien chanter, transpirer ici, là. Lui, il va sonder mon cœur, votre cœur. Et si en sondant les cœurs, là, on n'est pas en règle avec Dieu, là, on aura beau transpirer, nous serons comme l'offrande de Caïn. Dieu ne va pas agréer. Pourtant, nous apportons l'offrande. C'est là encore, vous comprenez que l'offrande, c'est bien de l'apporter, mais nous l'apportons comment? De peur d'être frustré comme Caïn qui a dit, mais Seigneur, j'ai apporté l'offrande. Seigneur, j'étais au culte dimanche. Seigneur, j'ai comme quitté ma maison pour venir. Seigneur, 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 oui. Mais tes dispositions intérieures. Quelles étaient les dispositions du cœur? Reconnaître la grâce de Dieu est l'élément fondamental du culte. Que tout est grâce et que Dieu mérite d'être glorifié pour la manifestation de sa grâce. Et Abel l'avait compris, qu'à travers le sang des boucs, il n'a même pas, c'est pas lui qui les a fait sortir de la terre. Hein. C'était un don. Ce sont des animaux qui sont là, il a offert le sacrifice. Il dit, Seigneur, mais écoute, reçois le sacrifice de l'action de grâce. Dieu était content. Le mépris du culte. Je ne sais pas. En même temps, on dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez, encore, c'est pour dire qu'on peut avoir tous les titres possibles et ne pas connaître Dieu. Et c'est là qu'en se posant la question à soi-même, on serait tenté de se dire, mais finalement, c'est quoi connaître Dieu là-même?
Bonne question.
Parce que même Paul, en dépit de tout ce qu'il a eu à faire comme œuvre missionnaire, il se fixait un seul objectif, c'était de connaître le Christ. Il dit, mon but, c'est de le connaître. On aurait pu dire que mon Paul, avec tout ce qu'il a fait, connaissait déjà. Mais lui dit que mon but, c'est de le connaître. Donc, ça veut dire que la connaissance de Christ et de Dieu, c'est un travail de tous les jours.
Oui.
Parce qu'il aurait pu dire, c'est un acquis, je connais Jésus. Mais pourquoi il dit que mon but, c'est de le connaître, pas autre chose. C'est de le connaître. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, que ce que nous faisons, ce n'est pas de l'amusement. Quels que soient les titres que nous pouvons avoir, ce n'est pas ça qui va véritablement nous amener à la vraie connaissance, parce que c'était sacrificateur. Maintenant, je me suis aussi posé la question en lisant cette histoire. Et mais pourquoi ils étaient légers? Il y a deux options. Ou leur père était lui-même léger. Parce que les enfants, ils regardent ce que le papa, il fait aussi. Hein? Parce que je n'arrive pas à comprendre que des sacrificateurs, si Élie était très sérieux dans le service, là, pourquoi les fils n'ont pas reproduit le sérieux du père? Ça, c'est la première hypothèse. Hein? Soit le père aussi était pas sérieux. Ou bien la seconde hypothèse, comme on le dit, ils avaient un mauvais cœur, c'est tout, ils étaient des rebelles, ils étaient... Parce qu'on a vu dans les familles, hein, malgré la bonne éducation que l'on peut donner, mais l'enfant il est plus têtu, hein, il a sa conception, malgré tout ce que tu fais, lui il a sa conception, il ne bouge pas. Mais voilà, donc c'est vraiment, ça poussait quand même à la réflexion parce qu'ils étaient quand même sacrificateurs. Et en Israël, tout le monde n'était pas sacrificateur. Donc le fait d'avoir quand même cette fonction, c'est que quand même, enfin... Que le Seigneur nous aide tout simplement à comprendre l'importance de notre fonction et l'importance du culte dans tous ses aspects, frères et sœurs. Donc dorénavant, lorsque vous venez dans la pensée de la communion fraternelle, dites-vous bien que c'est vous qui êtes l'offrande. Si vous n'êtes pas bien, si vous ne vous sentez pas bien, ne dites pas que le culte il était mauvais, c'est vous. Il ne faut pas que notre ressenti personnel en plus dire que c'est Dieu. Parce que ton ressenti, ce n'est pas le ressenti général. Tu peux avoir un ressenti, c'est toi-même, tu peux être fatigué, tu peux être nerveux, tu peux être en colère, après dire non, je n'ai pas senti Dieu. Mais est-ce que toi-même tu as examiné ton propre cœur? C'est ça, donc c'est pourquoi en comprenant par rapport à tout ce que Saint-Paul nous dit, nous nous rendons compte que le culte, c'est nous-mêmes. Je vais au culte, c'est un abus de langage. Nous allons au rassemblement au lieu de prière. Mais le culte, c'est chacun de nous. Et donc, ça veut dire que de façon personnelle, individuelle, chacun de nous devrait être préparé, conditionné. Parce que, je le répète, Dieu n'a pas besoin de figurants. Ce n'est pas une question de présence physique. Parce qu'on peut être physiquement là et puis ne pas être en esprit. Hein. Il y a des gens, on a vu dans nos assemblées au pays, hein, ils sont là présents parce que s'ils ne viennent pas, on va leur faire le suivi. Donc ils préfèrent pour lui être là, même s'il n'est pas dedans. Il est pour lui là, au moins il est venu au culte. Parce que sinon il va recevoir des appels, il aura le suivi. Donc vous comprenez que ce n'est pas une question de présence, mais vraiment il faut aimer. Aimer un, la communion paternelle, aimer le rassemblement des frères et des sœurs, et puis deux, avoir un cœur pour Dieu. C'est tout. C'est ce que nous avons besoin d'avoir. Et nous allons terminer par un deuxième passage dans la Bible sur ces choses-là, par rapport aux limites de Dieu. Deuxième élément, donc après le mépris du culte, nous allons voir dans Esdras chapitre 1. Il y a une information importante également ici. Esdras, c'est un livre historique. Donc après les chroniques, là vous avez Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. Nous allons, ça c'est le contexte dans Esdras, et nous allons voir l'application dans le livre du prophète Agée. Avant que nous puissions aller dans le livre du prophète Agée, vous voyez déjà à travers la lecture que nous venons de faire, que le Seigneur, lorsqu'il va susciter Cyrus, il va susciter Cyrus avec un but bien précis. Donc quand Cyrus reçoit la révélation de Dieu, il était roi de Perse, et à cette époque-là, les enfants de Juda étaient sous dans cette déportation-là des Perses. Après Babylone, c'était le royaume de Perse qui est venu dominer. Le Seigneur va se révéler à Cyrus et il va lui donner des instructions bien précises. Mais le problème, c'est que après avoir reçu les instructions de Dieu, les enfants d'Israël, dans le livre du prophète Agée, ils vont sortir des limites de Dieu. Ils vont sortir des limites de Dieu. J'ai lu pas ça dans Esdras, c'est le contexte qui nous explique Agée. Parce que si vous lisez Agée sans savoir que ce qui se passe dans Agée, son contexte dans Esdras, vous allez être perdu. Ce qui se passe dans Agée, le contexte est dans Esdras. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans Agée? C'est la même période. Donc, les enfants d'Israël vont quitter le royaume de Perse et tout ça là. Ils vont repartir à Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ce que je veux lire maintenant. La deuxième année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Déjà, au verset 2, Dieu constate que le peuple qui était reparti à Jérusalem, qui était censé rebâtir la maison de Dieu, puisqu'il a dit dans Esdras qu'ils doivent repartir à Jérusalem pour rebâtir, d'abord rebâtir la maison de Dieu, le peuple arrivé sur place a certainement commencé à bâtir la maison de Dieu, mais après ils se sont dit, bon, écoutez, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel, on va chacun faire notre business. Et c'est pourquoi au verset 3, il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Il leur pose la question, vous travaillez pour votre maison, vous travaillez pour vous-même, mais ma maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Mais à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Eh oui. Ça, c'est très interpellatif ce que nous venons de lire. Dieu a dit à Cyrus, il repart, mais pour bâtir d'abord ma maison. Ça veut donc dire, tant que la maison de Dieu n'était pas terminée, il ne devait pas faire autre chose. lorsque nous ne n'œuvrons pas dans le cadre de notre appel, lorsque tu n'œuvres pas dans le cadre de ton appel, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu vas avoir des problèmes. Parce que Dieu leur avait demandé, Dieu les avait appelés pour repartir dans un but bien précis, c'était de rebâtir. Alors eux, ils ont voulu faire autre chose. Alors que leur premier appel, c'était de réunir toutes leurs forces pour faire en sorte que la maison de Dieu soit restaurée dans ses fondements, soit rebâtie. Ils n'ont pas pris au sérieux leur appel. Ils n'ont pas œuvré dans le cadre de leur appel. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a eu le jugement de Dieu. Chaque fois que vous n'œuvrerez pas dans le cadre de votre appel, Dieu se lèvera contre vous. Je me répète, chaque fois que vous ne travaillerez pas dans le sens de votre appel, vous allez rencontrer l'opposition de Dieu. Dieu s'est opposé à ce peuple. C'est pourquoi il dit, considérez attentivement vos voies. Il dit, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. C'est ceux qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils ont beaucoup semé, mais ils récoltent peu. Ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. On dit quoi? Ils sont vêtus, mais ils ont toujours... Ils n'ont pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est comme si tu gagnes ton salaire, mais ça passe, je ne sais pas d'où. Tu as travaillé, mais c'est comme si le salaire en question il se dilapide. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu se lève. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, justement. Dans ces domaines-là, il faut prendre le temps d'examiner. Peut-être que tu ne fais pas ce que Dieu a demandé que tu fasses. Quelquefois, c'est bien d'aller, c'est de chasser les démons, c'est bien beau, mais à un moment donné, il ne faut pas seulement chasser les démons, il faut aussi s'examiner soi-même. C'est pour qu'elle a dit, considérez attentivement vos voies. Pour voir justement, est-ce que quelque part, je suis toujours justement dans les voies de Dieu, ou bien je suis sorti des voies de Dieu. Il dit, considérez, il dit attentivement. La Bible ne dit pas considérez vos voies, la Bible précise, attentivement. C'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a une insistance. Faire attention, soyez minutieux, examinez correctement, convenablement vos voies, chaque étape. Est-ce que quelque part tu n'as pas loupé quelque chose avec Dieu? Il dit, considérez attentivement vos voies, justement pour savoir est-ce que nous sommes toujours dans les voies de Dieu. Parce que frères et sœurs, ce qui est arrivé à ce peuple, ils ont négligé. Ils ont dit, oh, c'est pas le moment. Et là, je refais la transposition avec nous aujourd'hui. Je répète, qui est la maison de Dieu aujourd'hui? C'est nous. La Bible dit, vous êtes la maison de Dieu en esprit. Donc, la priorité, c'est de construire la maison de Dieu. C'est-à-dire, notre vie spirituelle avec Dieu est beaucoup plus importante que notre vie physique, matérielle et sociale. Lorsque dans nos choix, nous travaillons plus pour le social, pour le matériel, pour le physique, et que nous négligeons le spirituel, Dieu va s'opposer à vous. Quelles que soient vos raisons et vos excuses, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez tourner, parce que vous n'avez pas compris que le temple doit être construit, bâti, édifié. Vous devez travailler pour que, justement, l'homme intérieur puisse s'exprimer, grandir, dans le temple que nous sommes. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans des excuses. La parole du roi, elle ne se discute pas. Quand le roi parle, il n'a pas besoin de votre avis. Quand le roi parle, c'est pour qu'on écoute et on obéisse. La royauté, ce n'est pas la république, ce n'est pas la démocratie. Quand le roi a parlé, il a parlé. Donc vous devez comprendre qu'en Christ, nous sommes dans la royauté de Dieu. Dieu, sa parole, elle est infaillible, elle est pleine d'autorité. Quand Dieu a dit, allons à droite, frères et sœurs, allons à droite. On ne se pose pas la question, on ne doit pas chercher à ce qu'il justifie son ordre et son commandement. Il a parlé, c'est lui le roi, il fait ce qu'il veut dans sa souveraineté. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, parce que dans notre mentalité de la démocratie, là, on veut que Dieu justifie tout. Dieu ne va pas vous consulter. Sa parole, elle a de l'autorité. Sa parole est une loi. Quand il a parlé, il a parlé. Il a dit, c'est ça, c'est ça. Il n'a pas dit, non, Seigneur, on est arrivé, bon, nos maisons personnelles étaient un peu détruites. On est d'abord allé arranger nos maisons. Bon, le temple, bon, on reviendra après. on n'a pas besoin d'excuses. Sa parole, ou on est soumis à elle, ou on n'est pas soumis à elle. Il n'y a pas à se justifier. Il a parlé. C'est la partie de la vie chrétienne la plus difficile. Pour notre chair, bien sûr. C'est pourquoi Vasti, lorsque le roi l'a appelée, elle aurait dû venir, tout simplement. Mais dès l'instant où elle a commencé à réfléchir, pourquoi il me fait venir? Il a fait la fête, il est content. Maintenant, pourquoi je vais venir? Je ne viens pas. Et quand Vasti a dit non à la parole du roi, de son roi, elle a été écartée de la royauté. Parce que le roi a parlé. Ça, c'est vraiment dans la vie chrétienne. Il faut que nous, les pasteurs, on soit honnêtes avec le peuple de Dieu. On ne doit pas vous prêcher un évangile à l'eau de rose. On doit vous dire la vérité. Quand vous venez à Christ, il est le roi, il est le souverain. Nous chantons la souveraineté de Dieu et sa seigneurie. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Quand il parle, on obéit, on ne discute pas. C'est tout. On est dans un royaume, on n'est pas en république, on n'est pas dans le système démocratique avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de vote, il a parlé, on est soumis à sa parole. Avec Dieu, on est dans le contexte, comme je vous l'avais dit, d'Esdras et de Samuel. Esdras tremblait devant la parole de l'Éternel, Samuel laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Des hommes qui avaient compris qui était Dieu. Ils n'ont pas dit on va réfléchir, on va raisonner. Celui qui réfléchit sur la parole de Dieu, c'est le diable. Souvenez-vous, au commencement, il a dit non, Dieu n'a pas dit ça, Dieu sait que. Celui qui remet en question la parole de Dieu, celui qui sème le doute, celui qui amène la réflexion sur la parole de Dieu, c'est le diable. Et lorsque tu commences à trop réfléchir sur la parole de Dieu, pourtant une parole qui est claire, quand tu commences à trop réfléchir sur cette parole-là, sache que c'est l'ennemi de nos âmes qui a déjà insufflé la pensée en toi. La preuve, regardez Jésus et Pierre. Pierre dit oh non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Non. Il s'oppose comme ça. Au départ de Christ à Golgotha, Jésus-Christ a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Il dit les pensées que tu as, ce sont les pensées des hommes. Non, la réflexion de Pierre n'était pas de Dieu. Donc quand on commence à trop réfléchir, non, Dieu va comprendre. Dieu, non, Dieu ne comprend pas. Quand sa parole, elle est libérée. Dieu a parlé, il a parlé, frères et sœurs. Apprenons, vraiment, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. Apprenons la soumission à la parole de Dieu. Apprenons, je dis bien apprenons parce que c'est pas facile dans la chair, mais nous n'avons pas le choix. Apprenons à nous soumettre à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est pas pour qu'on discute sa parole. Aujourd'hui, on discute la parole de Dieu, mais c'est pas notre parole, c'est sa parole. Il a dit, vous allez rebâtir, c'est d'abord ma maison. Ensuite, chacun pourra faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi même en Christ, il revient sur la même volonté, le même désir. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, et sa justice. Il dit le reste là, c'est notre vie physique, sociale, matérielle. Il dit le reste, il va donner. Mais c'est après. Donc vous comprenez qu'il y a le lien entre le spirituel et le matériel. Si spirituellement ça ne va pas, il y aura un impact sur le matériel. Ça, je vous assure. Vous n'allez pas dissocier. Vous n'allez pas dire non, ça, je mets ça en parenthèse. Je règle d'abord mes problèmes matériels. Non, ça nous rattrape toujours. Toujours, ça nous rattrape. Parce qu'on se rend compte que si spirituellement vous n'êtes pas au beau fixe avec Dieu, ça ne va pas aller sur le plan matériel. Je vous dis la vérité, frère, ça n'ira pas. Et vous ne comprendrez pas, mais pourtant je fais ci, je fais ça. Oui, mais tu le fais, mais est-ce que sur le plan spirituel, si on règle avec Dieu? Le peuple n'a pas œuvré dans le cadre de son appel. Et le fait qu'il soit sorti de son appel, ben, le Seigneur s'est opposé à eux. C'est Dieu lui-même, hein? C'est pas le diable. Il y a des résistances dans nos vies, c'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Là, Dieu a dit, c'est moi-même, j'ai soufflé. Dieu lui-même. Parce qu'on a enseigné aux chrétiens que les résistances dans nos vies, c'est le diable ou bien le péché. Il y a des résistances dans nos vies, c'est Dieu lui-même. Dieu résiste. Si vous ne le saviez pas, j'aimerais vous l'informer de façon solennelle. Dieu résiste aux hommes. Dieu résiste aussi, hein? Dieu résiste. Et quand c'est Dieu qui résiste, tu auras beau jeûner, prier, tu auras tout fait. Le ciel sera fermé, la situation ne bougera pas. Parce que c'est lui-même qui te résiste. C'est même pas le diable. C'est même pas se faire une bonne conscience, bon, l'espérance, peut-être que Dieu va faire. Non. Là, c'est. Quand c'est comme ça, là, il dit considère attentivement. Revois ta manière de marcher là. mais pas de façon vite, hein. Tu reprends le temps de t'asseoir, réexamine bien ta vie là. Et là où l'esprit va maintenant voir que tu as la disposition de cœur de examiner ta vie, il va commencer à mettre des choses en lumière. Et à ce moment là tu comprendras, ah donc là j'avais déjà failli à ce niveau. Mais s'il n'y a pas les bonnes dispositions de cœur, on n'est pas prêt à nous revoir attentivement, Dieu continuera à nous résister. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Parce que quand Dieu il a parlé, quand Dieu a donné une direction, il faut suivre cette direction-là. Donc nos ministères, nos appels, toutes ces choses-là, si on sort de notre couloir, on va avoir des problèmes. Et là, ce n'est même pas Satan qu'on va rencontrer, c'est Dieu lui-même qu'on va rencontrer. C'est Dieu lui-même. Vous pouvez encore rencontrer le diable parce qu'on peut prendre autorité au nom de Jésus. Mais si c'est Dieu lui-même, frères et sœurs, on va faire comment? C'est Dieu lui-même. Vaut mieux rencontrer le diable. Et là, tu, au nom de Jésus, tu prends autorité. Mais c'est Dieu lui-même qui te bloque le chemin. Là, tu vas passer comment? Tu vas contourner par où? Il ne faut pas attendre que Dieu nous écrase. Il faut savoir se repentir. C'est pourquoi la repentance, frères et sœurs, c'est toute notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Toute notre vie. On a besoin de nous revoir. Revoir notre manière de penser, notre manière d'agir, de nous comporter tous les jours. On doit faire un travail de telle sorte que nous puissions être justement agréables à Dieu. Donc c'est sur ces paroles que je nous laisse dans la prière. On va prier le Seigneur par rapport à ça. On va prier Dieu. Que Dieu nous aide. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu ne comprends pas pourquoi il y a de l'opposition. Tu ne comprends pas pourquoi tu tournes. Tu ne comprends pas pourquoi les choses n'évoluent pas. Il dit tout simplement, nous devons considérer attentivement nos voies. Donc la prière que nous voulons faire maintenant, c'est une prière qui va nous amener à considérer nos voies attentivement. Prendre le temps. La vie chrétienne, ce n'est pas du vite. Il faut savoir dans la vie chrétienne s'arrêter. Il faut savoir dans la vie chrétienne se poser aussi les bonnes questions par rapport à soi-même. Il faut savoir dans la vie chrétienne savoir être patient avec Dieu. Donc tu vas prier pour toi-même par rapport aux paroles que tu as entendues ce matin et vraiment que Dieu nous aide, qu'il nous aide vraiment à veiller sur nous-mêmes afin de ne pas sortir des voies. Seigneur, je te prie ce matin pour que tu nous aides tous à rester dans tes voies. Parce que combien de fois ne sommes-nous pas tentés à sortir, Seigneur Dieu, des sentiers, des chemins que tu as déjà tracés pour nos vies. Combien de fois dans nos raisonnements, combien de fois, Seigneur Dieu, dans notre propre chair, ne sommes-nous pas tentés, notre Seigneur, de faire notre propre volonté? Alors que tu as dit que nous sommes là pour faire ta volonté. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu sois glorifié. Alors aide-nous à comprendre et à prendre au sérieux, Seigneur, que tu es digne d'être glorifié comme nous l'avons chanté ce matin, digne d'être élevé, digne d'être loué. Seigneur, je prie ce matin que tu nous aides, que tu as réveillé l'esprit de Zorobabel afin qu'ils prennent conscience de l'état, de la situation dans laquelle ils étaient pour qu'ils repartent rebâtir la maison de Dieu. Je prie également ce matin que tu réveilles notre esprit, Seigneur. Réveille-nous afin que nous puissions prendre conscience des différentes failles qu'il y a dans notre vie par rapport, Seigneur Dieu, à notre propre édification, par rapport, Seigneur Dieu, à notre propre appel, par rapport, Seigneur Dieu, aux choses que tu nous as demandé de faire et que nous ne faisons pas. Seigneur, nous avons besoin vraiment que tu puisses encore nous réveiller encore tout au long de cette semaine pour que nous puissions veiller et bien sûr pour que nous puissions faire le travail qu'il faut dans chacune de nos vies. Je t'en prie et je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié ainsi. Alors tu vas prier pour la personne qui est à côté de toi. S'il y a une personne à côté de toi, tu vas prier afin que le Seigneur fortifie ton frère et ta sœur pour cette semaine qui va commencer. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Oh, merci.